Le magazine Femina de VOA Afrique. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. C'est Nathalie Barge avec vous, avec aujourd'hui encore des invités de marque pour débattre d'un sujet très particulier, les violences sexuelles, les viols commis lors de conflits et autres. Alors, la Cour pénale internationale a reconnu l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba coupable de crimes contre l'humanité pour des meurtres et des viols commis par sa milice en Centrafrique en 2002-2003. Alors, qu'est-ce qu'a de particulier finalement cette culpabilité prononcée? C'est qu'il s'agit en fait du premier jugement condamnant un commandant militaire et le premier de la CPI à condamner l'utilisation de viol en tant que crime de guerre. Alors nous avons comme invité avec moi ici dans les studios, dans le studio 13 de La Voix de l'Amérique, le docteur Maurice Anda Kouyaté, militant des droits humains, directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques néfastes à la santé des femmes et des enfants. Docteur, c'est vraiment un honneur de vous avoir enfin ici.
C'est un grand plaisir pour moi d'être en face de vous et dans ce beau studio.
Alors, nous avons également Karine Canezza, militante des droits humains, également membre du mouvement des femmes et des filles pour la paix au Burundi. C'est un grand plaisir de vous avoir également avec nous, Karine. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Nathalie, de m'accueillir.
Et nous avons Fatoumata Kandé, qui dirige en fait la branche du comité interafricain sur les pratiques néfastes à la santé des femmes et des enfants, donc ici aux États-Unis, qui est en fait, on peut le dire peut-être, l'épouse du docteur Maurice Anda Kouyaté. C'est un honneur de vous avoir ici, madame. Merci beaucoup. Merci.
Merci Nathalie, merci infiniment.
Merci beaucoup à tous les trois d'être ici donc pour participer à ce débat. Alors la question des violences sexuelles, non pas seulement en Afrique, dans le monde entier, les viols, les violences sexuelles. Je voudrais peut-être commencer par le docteur Maurice Anda Kouyaté. Les violences sexuelles, si vous deviez dresser un plan de l'état des violences sexuelles dans le monde, qu'est-ce que vous diriez ?
Je dirais que face aux violences sexuelles, violences basées sur le genre, je pourrais dire que la situation est alarmiste et que nous ne faisons pas assez pour traiter de cette question importante qui intervient à des moments particuliers de la vie des populations et qui, à ce stade-là, passe en second plan, alors que ces violences devraient être placées au premier plan. Donc, sur eux, qu'on en parle aujourd'hui, et vous avez bien fait de le dire, nous ne sommes pas des afro-pessimistes, nous ne venons pas pour condamner l'Afrique, nous venons pour traiter d'un sujet universellement à traiter. Donc, ça va, aujourd'hui, on a parlé de Jean-Pierre Bemba, il y a eu aussi, je crois, Radovan Karadžić qui a été jugé aujourd'hui. Donc, c'est vraiment les violences au niveau universel. Mmh. Et je pense qu'il est temps, grand temps, de sévir contre ces violences. Mmh.
Alors, on sent que ça se met en place petit à petit, en effet, un problème universel est vieux comme le monde, on peut le dire, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Au cours des guerres, on viole les femmes. On viole les femmes, on viole les filles, et ça, c'est très, très, très vieux. La Seconde Guerre, ça a eu lieu. Auparavant, ça a toujours eu lieu. On ressort même actuellement l'histoire des femmes de réconfort, là. Vous savez comment on les appelait, là, au Japon, etc. Toutes ces femmes aussi, ces filles mises à la disposition, même de l'armée américaine, au Japon, etc. Et on commence seulement à se réveiller un petit peu et à dire, c'était pas bien, il fallait pas faire ça. etc. Donc, je voudrais me retourner maintenant vers Karine. Karine, quel sentiment vous avez par rapport à ça, finalement, par rapport au fait que il nous faille, à l'humanité, il faut vraiment beaucoup de temps avant de réaliser que faire du mal aux autres, c'est pas bien, quoi.
Absolument. Et ce que j'aimerais dire, c'est que au départ, il y a quand même une grande conscientisation de la part des femmes. Qui est venu avec le temps, qui est venu avec beaucoup de sensibilisation, qui est venu avec un gros travail au niveau des associations, au niveau des groupes qui défendent les droits humains. Et ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que, en fait, la femme en 2016 ne pense pas, ne réagit pas comme la femme en 1940. Nous vivons dans un monde multidimensionnel où beaucoup de choses sont moins à l'abri, en fait. Au moment où je vous parle, par exemple, le Burundi, mon pays, qui est en train de passer, justement, encore une fois, dans une crise conflictuelle. Et nous avons, encore une fois, en janvier 2016, il y a eu un rapport des Nations Unies qui, encore une fois, nous ramène sur la question du viol en tant qu'outil de répression. Mais cette fois-ci, je pense que la petite différence, c'est que les membres des Nations Unies ont pu parler aux victimes. Donc, il y a eu 13 cas qui ont été révélés. C'est pas grand-chose, mais ça nous donne une idée de ce qui est derrière.
Oui, tous les cas, de toute façon, doivent être pris en considération. Comme vous l'avez dit, docteur, tout à l'heure, l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, a été condamné à 40 ans de prison par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie de la Haye. Il a été reconnu coupable de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, dont les viols. Et ça, c'est au lendemain même de la culpabilité prononcée, donc quasiment contre Jean-Pierre Bemba. On a également le 23 mars, c'est encore tout frais, la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale qui a confirmé 70 accusations portées par le procureur contre Dominique Ongwen. Cette décision ouvre la voie à un procès. Dominique Ongwen est le premier dirigeant de l'armée de résistance du Seigneur, la fameuse LRA tristement célèbre, en garde à vue à la CPI. Alors, donc là également, il y a des cas de viol, d'esclavage sexuel, de mariage forcé, donc entre autres, Fatoumata Kandé. J'aimerais bien avoir votre sentiment sur ces questions-là. Vous, quand vous les abordez, vous les traitez de quelle manière, toutes ces violences sexuelles faites aux femmes et aux filles ?
Nathalie, je vous remercie. À voir toutes les violences qu'on est en train de faire aux femmes, il faut prendre le problème au sérieux. Vous savez, tout au début, les violences passaient sous silence. Parce qu'en Afrique, par exemple, on n'osait pas dénoncer un violeur qui pouvait être votre oncle, votre frère, ainsi de suite. Mais actuellement, avec l'émancipation de la femme, les filles dénoncent leurs violeurs, les familles dénoncent, et je pense qu'il est temps pour les gouvernements de prendre des sanctions. Quand je prends le cas de mon pays, la Guinée, tout récemment, il y a eu 3 jusqu'à 4 cas de jeunes filles, de petites filles qui ont été violées par des grandes personnes, des hommes de taille. Alors, vous voyez que toute violence faite aux petites filles, des innocentes, des femmes, n'est-ce pas, doivent être sanctionnées. Mon sentiment sur ces cas, c'est de faire un appel solennel au gouvernement, aux familles, de prendre le problème au sérieux.
Et on se souvient très bien de ce malheureux événement, ces violences du stade, n'est-ce pas ?
Bien sûr, qui
ont fait le tour du monde. Des jugements qui sont encore en cours.
Absolument.
Et il y en a un autre, Ladislas Ntaganza. Vous en avez entendu parler aussi. Les États-Unis se sont félicités du transfert de Ntaganza par la RDC pour un procès au Rwanda pour plusieurs crimes, y compris le génocide et les crimes contre l'humanité, en vertu d'un mandat d'arrêt arrêt du mécanisme des Nations Unies pour les tribunaux pénaux internationaux. Alors, Ntaganzwa est également accusé d'avoir donné des ordres directs pour que les femmes soient brutalement et à plusieurs reprises violées, hein, rappelle le département d'État. Docteur, vous auriez quelque chose à dire là-dessus?
Ah oui, absolument. Vous savez, j'ai un sentiment mitigé dans ce domaine-là. Mmh. Est-ce qu'il... Pendant combien de temps il va revenir seulement aux tribunaux d'exception ou aux tribunaux spéciaux de juger ces cas? Pendant combien de temps on va encore parler de transfert de monsieur tel, transfert de monsieur tel vers tel tribunal? Il est temps pour les gouvernements de prendre le taureau par les cornes et de juger ces personnes là où elles ont effectué le crime. C'est non seulement punir le crime, mais c'est aussi pédagogique, parce que ça peut montrer à ceux qui sont là que ce crime est puni. Donc, autant nous sommes contents de voir les gens être transférés devant les tribunaux, autant nous souhaiterions, et nous ne souhaiterions pas, d'ailleurs nous souhaitons, que ces cas soient jugés par les pays d'origine. C'est ça qu'il faut.
Oui, surtout que dans un cas comme celui-ci, on a eu très récemment aussi sur les ondes de la Voix de l'Amérique, le coordonnateur adjoint de la coalition centrafricaine pour la CPI, maître Bruno Hyacinthe Biega, pour parler du cas Bemba, et qui précisait effectivement que certains criminels donc de guerre ne sont pas forcément condamnés par rapport à des faits commis sur un autre territoire, et que là aussi c'est un problème parce qu'ils vont être condamnés sur... Ils ont commis des faits sur ce territoire, mais sur l'autre, en revanche. Et puis, il y a des problèmes d'amnistie aussi, en général, d'anciennes amnisties qui ne sont pas levées. Donc, ça devient très complexe aussi, toutes ces affaires de jugement.
Absolument.
Mais alors, en fait, effectivement, les Africains, d'une manière générale, hein, parce qu'on l'entend partout, on a eu de nombreux témoignages, n'aiment pas beaucoup la CPI, hein, comme on le sait. Et en fait, la CPI, finalement, est-ce qu'elle est ici, Karine, justement, pour pallier à cette absence de justice dans certains pays, selon vous?
Voilà, donc j'aimerais aussi réagir sur ce que le docteur vient de dire. Au cœur de la question, c'est mon sentiment, au cœur de la question liée aux violences sexuelles, aux viols, contre les femmes, c'est une question de valeur aussi. Mmh. Et c'est là où notre continent, mon pays en particulier, a beaucoup de chemin à faire. Une question de valeur, nous parlons ici, de docteur en fait parlait de responsabilité gouvernementale, d'un leadership qui fonctionne sur base de certaines valeurs, où le respect des droits humains est au centre de la gouvernance politique d'un pays donné. Et c'est vrai, on a beau dire qu'on ne veut pas on n'aimerait pas qu'il y ait un instrument juridique international qui s'immisce, comme certains disent, dans les affaires intérieures des États. Mais au regard de l'incapacité, d'une absence de volonté politique pour justement traiter de ces questions, qu'est-ce qu'on peut faire? Rappelons-nous encore une fois que dans certaines situations, ce sont des membres, des officiels, des gouvernements qui sont derrière ces actes. Je voudrais aussi relever le fait que la condamnation justement de Jean-Pierre Bemba, c'est vrai que c'est la première condamnation de la Cour pénale internationale, mais c'est aussi quand même un très bon pas en avant, dans la mesure où il a été condamné pas comme complice ou co-auteur, mais comme responsable par le fait qu'il était
chef, tout simplement.
Voilà, en tant que chef.
Donc il doit contrôler ses trouvailles.
Voilà.
Et là,
moi, je pense que c'est très important et que nos gouvernements devraient. C'est aussi un petit clin d'œil.
C'est un message envoyé d'une certaine manière, effectivement, par la Cour pénale internationale. Ça fait une sorte de jurisprudence, en effet. Les mentalités. On va parler des mentalités parce que on est dans une culture. Il faut bien le reconnaître, il me semble, où le viol, même au sein de l'armée, c'est une sorte de, on va dire une sorte de culture. Hein, on a toujours violé pendant les guerres, au sein des armées, etc. Même pour ne pas citer des affaires particulières, on connaît l'histoire de maisons closes qui ont été ouvertes pour des soldats étrangers. Et puis quand ils ont tous attrapé une certaine maladie, alors qu'on leur avait donné un petit préservatif, on a décidé de fermer ces maisons closes pour les protéger. Donc ça, c'est une histoire parmi tant d'autres qui dit en fait que Qu'est-ce qu'on protège là? Ce n'est non pas la victime, parce qu'il y avait des enfants qui étaient dans ces maisons closes, notamment au Japon. Ce n'est pas la victime, finalement, la personne violée, mais en fait, c'est le soldat qu'on protège, c'est le guerrier, en somme. Je voudrais avoir le point de vue de Fatoumata Kandé là-dessus. Les mentalités, comment faire évoluer les mentalités pour comprendre que violer une femme, violer un enfant, ce n'est pas bien?
Merci Nathalie. Je pense que, à mon avis, d'abord, on est passé par la sensibilisation. Mm-hmm. Avec la sensibilisation, je pense qu'on est là à couvrir le violeur. Parce qu'en sensibilisant un homme de ne pas violer, il est sous cachette. Mais en passant par la loi, en passant par la punition, en le dévoilant, en le montrant publiquement, il y aura plus de honte et à ne pas commettre le viol que de faire la sensibilisation. Sensibiliser un violeur, c'est comme si on le couvrait. Mmh. Et s'il y a la punition, s'il y a la loi, et si le violeur est montré du bout du doigt, je pense qu'il y aura réticence. Et les filles seront un peu en sécurité.
Docteur Maurice Sandakouyaté.
Oui, je pense que le viol, c'est un épiphénomène du statut de la femme dans nos sociétés. Il s'agit de faire évoluer le statut général de la femme dans les sociétés, dans nos sociétés. Et quand je dis dans nos sociétés, je parle de toutes les sociétés. Mmh. Hein, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes aujourd'hui au Parlement rwandais. Oui. Qu'au Parlement américain, qu'au Parlement britannique.
Oui, oui, donc, absolument. La plupart de
nos sociétés. Donc, quand je parle de nos sociétés, je parle de toutes nos sociétés actuelles. Mm-hmm. Les femmes ont été, et les enfants ont été considérés comme des butins de guerre, comme des récompenses pour des guerriers, comme vous l'avez dit. Mais prendre une personne humaine comme récompenser une autre personne, c'est déjà mettre la personne récompense au-dessous de la personne récompensée. C'est ça qui doit changer. C'est pas parce que l'homme est allé en guerre qu'il devient supérieur à la femme. Non, parce qu'il est allé en guerre parce que la société a décidé que ce soit les hommes qui se battent. Et maintenant, ça change. Aujourd'hui, dans nos armées, nous avons les femmes qui se battent. Mm-hmm. Donc, il faut faire évoluer le statut général. Et je pense, vous avez fait un clin d'œil je voudrais revenir rapidement sur ça, mm-hmm. sur la Cour pénale internationale, oui. J'étais à Addis Abeba, j'étais dans la salle, mm-hmm. le dernier sommet des chefs d'État, j'étais là-bas. Il y a une fronde généralisée des chefs d'État africains contre la Cour pénale internationale. Je n'aime pas beaucoup la Cour pénale internationale parce qu'elle fait mal son travail. Mm-hmm. Elle sélectionne. Mais on ne leur a pas dit de sélectionner, on leur a dit de prendre tout le monde. Oui. C'est ça qui crée le problème. Maintenant, au lieu d'être efficaces, ils deviennent inefficaces, ils deviennent... Alors,
ils ont trop de travail ou ils sélectionnent
pas
vraiment
ils sélectionnent. Oui. Ils sélectionnent. On ne peut pas aller plus loin. Je ne veux pas aller plus loin.
Non, parce qu'en fait, il y a vraiment...
Mais on a détruit des écoles, on a détruit des écoles, on a tué des enfants sur le globe. Personne n'a rien dit. Personne.
Mais ça continue, en plus.
Personne n'a rien dit. On devrait dire quelque chose. La Cour pénale internationale, tuer des enfants dans leur école par des bombes qui sont lâchées à dessein.
La Cour pénale internationale, elle n'est peut-être pas très efficace.
Et elle est mal ficelée. Les grands ne l'ont pas signée. C'est donc les petits qui l'ont signée. Ouais. C'est bien fait pour nos pays qui signent n'importe quoi, même leur arrêt de mort. Ils signent. Et après, ils n'arrivent pas à l'appliquer. Ils auraient dû penser 1000 fois avant de dire qui est membre, qui n'est pas membre, qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que je peux faire. Et ils signent. C'est après avoir signé qu'ils se réveillent et disent ah, attention, les États-Unis n'ont pas signé, je n'aurais pas dû signer. Mais ils l'ont lu avant. Mmh. Mais tout ça, ce sont des épiphénomènes. Il faut que dans nos pays, que les... Vous savez, quand ils font la campagne...
Une justice...
Quand ils font la campagne, les chefs de... Les leaders politiques, le slogan, je suis pour les femmes et les enfants. Mmh. Mon mandat, les femmes, les enfants. Mon mandat, les femmes, c'est
surtout
pour les
actuellement,
femmes.
Parce que c'est la mode un petit peu. Hein. On a remarqué que donc, tout le monde se lève pour les femmes et les enfants. Et je voudrais revenir vers votre épouse, Fatima Kandé. Tous ces politiciens, là, vous les sentez comment? Est-ce que vous pensez que... Parce que bon, on en parle quand même. Alors après, bon, ils vont peut-être pas forcément réaliser leurs promesses, n'est-ce pas? Mais bon, et on va peut-être les pousser un peu aussi quand même après. Non, on peut pas les aider un peu à vraiment faire leur travail? les politiciens. C'est dur, hein, c'est pas facile, je sais.
Oui, Nathalie, vous savez, dans notre campagne de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines, nous avons poussé les premières dames. Et pour quelle raison? Pour que ces premières dames-là, qui sont femmes, qui sont mères, qui dirigent les familles, arrivent à pousser leurs époux.
Oui, mais alors il faut passer par la femme, quoi, c'est ça.
Bien sûr.
C'est un problème de femme, il faut passer par la femme, alors que c'est un problème universel. C'est ça. Hein?
Justement. C'est pourquoi nous avons impliqué les premières dames afin qu'elles arrivent à mettre une mainmise sur les décideurs qui sont leurs maris, afin que les lois qui sont là, qui ne sont pas encore appliquées, soient appliquées. Quand je vous dis qu'en Guinée, dans mon pays, la loi contre les mutilations génitales féminines existait depuis très longtemps. Mais jusqu'à présent, l'excision existe.
Et de la Guinée, belle,
de plus belle. La Guinée passe pour le deuxième pays à faire l'excision, surtout pendant les vacances. Alors,
On s'en sort pas.
Bien sûr, il faut donc...
Il faut sévir, hein.
Comme je viens de le dire, de ne plus passer par la sensibilisation comme nous l'avons fait depuis, depuis 25 ans, mais qu'il faut passer par l'application de la loi.
Alors, on a des cas comme ça, surtout en Afrique de l'Ouest, hein, de jugements, de condamnations, de pères qui ont voulu marier leurs filles. Et quand on parle de mariage d'enfants, on parle de violence sexuelle, on parle de viol. Il y a eu des procès sur l'excision également. Docteur, vous traitez beaucoup les mariages d'enfants, les mariages forcés, les mariages précoces.
Absolument.
Et qui dit mariage précoce, encore une fois, dit viol et violence sexuelle.
Absolument. Et c'est pourquoi nous avons même adopté le terme consacré mariage d'enfants. Parce que, en disant mariage précoce, étant donné que universellement on a fixé l'âge à 18 ans, 17 ans et demi pour être mariage précoce, 16 ans pour être mariage précoce. Alors que il s'agit de mariage d'enfants. Dans le pays où moi je vis, il y a des enfants qui sont mariés. C'est la voix de l'Amérique, c'est la voix du monde entier m'entend ici. Il y a des filles qui sont mariées à 8 ans. 8 ans.
Encore.
Oui. Dans le pays où je suis. Donc, ces mariages-là, c'est du viol. C'est même pas du viol, c'est de la pédophilie. Ça, c'est de la pédophilie.
C'est un mot qu'on n'ose pas trop prononcer.
Ah oui, mais pourquoi on n'ose pas prononcer? Vous savez, tant qu'on est politiquement correct, on ne finira pas avec ces violences. Nous le ressentons comme étant de la pédophilie. Et ça doit être puni comme tel. Et la responsabilité revient au gouvernement, encore une fois, je le dis.
Karine Canezza.
Oui. Non, j'allais dire... merci Nathalie.
Là-dessus,
réagissez. Tout à fait. Renforcement des institutions.
Oui.
C'est un travail en amont et en aval. Donc, un renforcement, ce sera pénible, parce que nous avons, qui dit institution, dit personnalité politique, dit valeur. Mais nous devons avoir ça, dit volonté. Nous devons avoir un renforcement des institutions et nous devons avoir une appropriation du problème par les victimes, par la société africaine, la société en général, parce que, nous rappelons-nous aussi encore une fois, il parlait de pédophilie. Moi, je m'en rappelle. Un chef d'État africain qui a dit, et on record comme on dit, oui, mais j'étais avec cette jeune fille, mais parce que elle avait un habit assez assez provocateur. C'est un chef d'État dont on parle. Donc
toujours la culpabilité.
Donc on a et certains sont tombés pour ça. Ah oui, mais peut-être qu'elle l'a provoqué. Donc il y a aussi ce couvert culturel.
Et on culpabilise toujours la victime.
Et on va culpabiliser la victime. Et il est plus que temps que les femmes commencent à parler, mais aussi commencent à percevoir ce qu'il y a de mal dans certains de ces actes. Parce que ça commence comme ça
et ne pas se culpabiliser elle-même.
Ne pas penser qu'elles ont provoqué ce qui leur arrive. Dans mon pays, il y en a certaines qui disent « Ah, mais je ne peux rien dire parce que on va attaquer
mon... »
Voilà, c'est la peur. Donc, le viol utilisé comme un outil de répression, de torture.
Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup au docteur Maurice Andakouyaté, à Karine Kanetza et à Fatoumata Kandé pour le magazine au féminin.
Merci, Nathalie.
De la Voix de l'Amérique. Merci. Je vous souhaite un très bon séjour, hein, docteur, aux États-Unis.
Merci,
hein,
parce
que Nathalie. Vous êtes
accueillis
en visite. Merci à nous de vous
remercier. Un grand plaisir et bonne Pâques. Hein.
Merci beaucoup. À très bientôt.
À
au très revoir.
Bientôt. Au revoir. Merci.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes. Flat on your back, you look to the sky. You rise.